Welcome to Greendale's Drug Awareness Show!
I finally have a case of lupus.
Lester, is this what you want?
Mr. Buckland, we are the sexual revolution.
What is up with the sex? It's all anybody thinks about anymore. Sex, sex, sex. What is the big deal?
Call it.
Are you right?
Yeah.
Yeah?
Are we having fun yet?
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, épisode 14 de cette saison 3. Avec Aurore, évidemment.
Bonjour.
Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de l'émission qui vous parle série télé. Et comme chaque semaine, on va un peu parler de ce que tu as pu visionner cette semaine notamment. On t'écoute.
Alors, j'ai pas mal de pilotes dont je pourrais parler, mais je vais essayer de parler de ceux dont je suis le plus certaine d'avoir une opinion, disons. Le premier, pour la simple et bonne raison que je n'irai pas plus loin, ça s'appelle Recovery Road et c'est sur l'ex-ABC Family devenue maintenant Freeform. Mm-hmm. Alors, de quoi ça nous parle, Recovery Road? Ça nous parle d'une adolescente qui se révèle être alcoolique et donc on imagine qu'on va suivre la route de sa rédemption, je sais pas comment on dit, de sa guérison au minimum. Ça, dans le pilote, on voit donc une jeune adolescente a priori sans problème. Sauf que le pilote s'ouvre quand même sur elle en train de dormir dans une pelouse et étant réveillée par un système d'arrosage automatique. Donc on imagine bien qu'il y a un problème, mais elle a l'air de fonctionner tout à fait normalement. Elle arrive dans son école et tout a l'air d'être sous contrôle, même si apparemment elle se souvient plus d'où elle a laissé sa voiture exactement la veille, mais bon. Et puis elle est appelée dans le bureau de la proviseure et il se révèle que la proviseure a fouillé son casier et que dans son casier a été trouvée une bouteille d'eau, apparemment, sauf que dans la bouteille d'eau se trouve de l'alcool. Mmh. À partir de là, en concertation évidemment avec sa mère, elle va être envoyée dans un centre de réhabilitation, non, de cure.
Oui, voilà. Mais emballée, c'est pesé, la mère toute contente, on place ma fille, super.
Surtout que, de l'extérieur, de la manière dont ça nous est présenté, Ça pourrait très bien être juste une erreur d'un jour. Elle avait promis à ses copains qu'elle apporterait d'alcool pour se marrer. Ça nous est tous arrivé de faire des conneries.
Mais c'est grave, c'est tout à fait grave.
C'est vrai qu'on pense pas directement la fille est une alcoolique invétérée. Et attention, c'est très grave, il faut immédiatement l'emmener en cure. Mais bon, apparemment, c'est comme ça que ça va être fait. Donc ok, on admet plus ou moins, même si on trouve ça quand même un peu vite expédié. Elle se retrouve dans ce centre et évidemment c'est une rebelle, donc directement elle va décider de faire le mur et tout, sauf que il y a un beau mec qui lui plaît bien dans le centre, donc elle l'emmène avec elle et lui il aimerait bien pouvoir continuer sa cure, donc finalement elle fait pas les bêtises qu'elle voulait faire et elle rentre chez elle et dans le centre et tout ça est très très attendu, plein de bons sentiments et vraiment c'est vraiment le terme qui m'est venu le plus, c'est attendu, quoi. Parce que tous les ressorts qui ont pu arriver par la suite on se doutait qu'ils allaient arriver. Un des personnages dit au revoir à tout le monde parce qu'il a fini sa cure. On sait déjà que ça va pas bien se passer et qu'il va devoir revenir. Enfin, on le sent à 10 000 km à la ronde. Mm-hmm. Le beau gosse, ben, on sait déjà que oulala, ça va être l'intérêt amoureux de toute la saison, probablement. En tout cas, on ne peut que l'imaginer. Et tout ça, finalement, nous détourne un petit peu de la problématique qu'on nous avait dit vouloir traiter. Et qui n'a pas l'air de vraiment être traité avec sérieux, quoi. C'est plein de clichés, c'est très vite emballé comme ça, plein aussi de jugements moraux qui n'ont rien à faire là. Et donc bon, voilà. J'ai pas trouvé ça extrêmement intéressant. Ça le deviendra peut-être dans les épisodes qui suivent, mais ce sera sans moi.
Tu ne le sauras pas.
Voilà. Je le saurai jamais.
Alors, un autre choix parmi ta liste de séries vues cette semaine.
Alors, un autre choix, je vais parler maintenant d'une série qui m'a plutôt plu. A priori, je me dis que c'est plutôt une série qui me donnerait envie de la continuer. Ça s'appelle Colony et c'est sur USA Network. Et ça nous présente notamment Josh Holloway, donc le Sawyer de Lost, et l'actrice qui jouait Sarah Tancredi dans Prison Break ou bien Laurie dans The Walking Dead. On les retrouve tous les deux en couple avec enfants. Dans une jolie petite maison, apparemment sans problème, sauf que un petit zoom arrière va assez vite nous faire nous rendre compte que sous ces apparences très ordinaires d'un matin en famille se cache une réalité beaucoup moins drôle, puisque ils ont l'air d'être sous occupation. Ce qui explique évidemment le titre « Colony ». Et sous occupation de quoi, on ne le sait pas exactement. Toujours est-il qu'un des enfants du couple, apparemment, a été emmené en prison, ou enfin, dans une sorte de prison par les occupants. Et un des enjeux pour notamment le personnage de Josh Holloway dans ce pilote serait d'essayer de pouvoir rejoindre cet enfant. Malheureusement, ça va échouer et à cause de ça, il va être repéré par un des chefs de district qui est un petit peu le collaborateur en chef des occupants dont on ne sait absolument pas de quelle nature ils peuvent être, et qui va lui proposer, en se rendant compte que en fait c'est un ex-militaire entraîné pour mener des actions très particulières de recherche de suspects, je crois, ou quelque chose comme ça. Mmh. Il va être plus ou moins obligé de collaborer avec lui pour également traquer la résistance.
Ouais.
Le problème, c'est que ça, c'est le côté du père. Du côté de la mère, c'est-à-dire du personnage de Sarah, je ne sais plus comment elle s'appelle dans cette série-ci. Là, c'est assez différent, puisqu'il semblerait qu'elle ait plutôt des accointances, elle, avec la résistance. Et du coup, ça risque assez vite de poser problème. On ne sait pas encore
conflits.
Exactement de quelle nature. Alors, le seul truc que j'ai trouvé un petit peu gros quand même, c'est apparemment quand ceux qui colonisent, dont on ne sait pas qui ils sont, sont arrivés, ils ont tué tous les soldats, tous les gens vraiment compétents, risquant de les mettre en danger, sauf forcément... le personnage de Josh Holloway qui lui a réussi à se cacher parce que sûrement qu'il est beaucoup plus fort que tous les autres. Mais du coup, une fois qu'il le trouve, c'est un petit peu petit peu gros que ils se disent ah ben finalement on aurait peut-être pas dû tous les tuer parce que maintenant ça nous servirait bien un type comme ça pour aller chercher tous les résistants, donc celui-là on va pas le tuer, on va s'en servir. Ça m'a semblé un peu gros, mais bon, voilà. Admettons, hein, il fallait mettre en place l'histoire. Certaines scènes avec des drones robots sont plutôt chouettes à voir. D'autres, par contre, sont moins réussies. Mais donc, disons qu'on voit qu'ils n'ont peut-être pas tous les moyens dont on pourrait rêver, mais en même temps, il y a de bonnes bases, donc on attendra de voir ce que ça donne sur le long terme.
Bien, une série qui m'intrigue, moi aussi, quand tu l'expliques comme ça.
Ok. Enfin, troisième et dernier pilote que je vais présenter aujourd'hui, il s'agit de Shades of Blue, une série que je n'ai regardée que pour le principe, vraiment, parce que c'était vraiment présenté comme la série devant mettre en valeur Jennifer Lopez, puisque c'est elle l'actrice qui joue le rôle principal dans cette série de NBC. Alors,
et
déjà,
tu n'es pas spécialement fan de J-Lo.
Je suis pas super fan de J-Lo, même si certains des films dans lesquels elle a pu jouer me plaisent. Et je suis encore moins fan des séries NBC ces derniers temps. Et donc, j'y allais plutôt à reculons. Et probablement en partie parce que je n'en attendais rien, j'ai plutôt trouvé que c'était pas si mal que ça. On voit bien que tout est mis en place vraiment pour nous présenter une Jennifer Lopez dans ce qu'elle peut avoir de meilleur, hein. Donc on la présente comme une femme forte, on la présente en même temps dans des tenues qui la mettent plutôt bien en valeur, on va la présenter aussi comme une femme ayant énormément de cœur, puisqu'elle va faire tout ce qu'elle peut en fait pour sa fille au final. Et donc, bon, si on passe un petit peu ça, qui pourrait éventuellement en énerver certains, le milieu qui est représenté, qui est un milieu de policiers corrompus, je l'ai trouvé pas totalement inintéressant. Assez cliché, c'est vrai, puisque dès l'entrée en matière, on a Jennifer Lopez, premièrement, qui fait une sorte de confession vidéo sur son ordinateur pour expliquer qu'elle ne s'attendait absolument pas à ce que ça aille aussi loin et qu'elle a rien vu venir. Et puis, on est tout de suite replongé deux semaines en arrière, et là, on la voit directement commettre un délit, c'est-à-dire maquiller une bavure de son partenaire en un geste tout à fait légitime, puisque ça a mené à la mort d'un suspect. Et donc, là, ça peut paraître gros, et puis après, on la présente dans son milieu, entourée des autres flics avec lesquels elle mène ses activités illégales. Et là, ça devient un petit peu plus sympathique. Donc voilà, j'attends de voir malgré tout. Je ne rejetterai pas totalement cette série-là. Pour NBC, c'est pas si mauvais que ça, franchement. J'ai vu bien pire.
Bien, à suivre. Alors, rapidement, un dernier point.
Un dernier point, oui. Qui n'est pas exactement une série, puisqu'il s'agit d'une série documentaire, et donc je ne pensais même pas la regarder en me disant il faut quand même que je me mette des contraintes, sinon je regarde tout le temps. Mais là, j'ai regardé malgré tout le premier épisode et j'ai été prise. Voilà, le doigt dans l'engrenage, c'est Making a Murderer. C'est donc une série documentaire sur Netflix qui va nous retracer l'histoire d'un homme apparemment accusé à tort d'un crime, mais tout ça est encore assez obscur au moment où moi-même je me suis arrêtée dans le visionnage, puisque pour le moment j'en suis à la moitié, j'ai vu 5 épisodes, il en reste encore 5. Malgré tout, je ne peux que constater une grande efficacité dans la manière dont tout ça a été monté pour donner envie aux téléspectateurs de voir la suite.
Ah, on est scotché, hein, on va de rebondissement en rebondissement. D'ailleurs, oui. Moi, à la fin du premier épisode, j'étais vraiment sur ma faim. Non, c'est pas possible. Ils nous prennent vraiment avec une info dont on ne s'attendait vraiment pas à voir sur l'écran. Et on se dit, le deuxième épisode, il est où? Et donc, voilà.
Oh, ben oui. Oui,
c'est bien joué.
C'est bien joué, oui. C'est plus, il faut l'avouer, peut-être malin que véritablement génial. Mm-hmm. Mais je crois qu'il y aurait des cours à prendre
rien que la technique d'amener ce récit par morceaux.
La technique narrative qui est utilisée est vraiment...
Parce qu'en gros, ils connaissent le début, ils connaissent la fin et ils doivent tenir sur 10 épisodes. Et donc, il faut qu'il y ait un climax, on va dire, quasiment à chaque fin d'épisode.
Ouais, ouais.
C'est bien fait, bien
oui.
vu.
Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà, si ça vous intéresse un minimum, foncez.
Netflix. Très bien, je te propose de déjà vite faire une pause musicale. On a beaucoup parlé, surtout toi.
Déjà. Oui, étonnamment, hein, oui. Pourtant d'habitude.
Non, c'est vrai.
Alors, on va s'écouter une chanson entendue justement dans Shades of Blue, c'est Chandelier de Sia.
Je te confirme, tu peux dire chandelier.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Ring up my doorbell. I feel the love. Feel the love.
Nous voilà de retour. Alors, dis-moi, Aurore, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ?
Alors, on va faire la suite un petit peu de l'émission de la semaine passée. Tu te souviens que la semaine passée, on s'était interrogé sur est-ce que les séries doivent être morales ou pas. Je ne suis pas extrêmement contente de cette émission, je dois te l'avouer, parce que je trouve qu'on a été assez peu clair. Mais quoi qu'il en soit, je crois quand même que on avait réussi à dire que normalement non, il n'y a aucune raison pour que les séries soient morales, en tout cas il n'y a aucune raison pour que les personnages soient moraux, il n'y a aucune raison pour que la production, les acteurs, etc., ça joue forcément un rôle sur la série en elle-même, de même que le traitement ou pas de certaines problématiques particulières comme l'égalité, les questions de préjugés, etc. Bon, par contre, on avait fini par dire que le propos, c'est quand même plus intéressant quand il n'est pas totalement contraire à la morale, malgré tout. Mais on n'avait pas vraiment eu l'occasion d'approfondir cette question-là. Donc je te propose aujourd'hui d'un petit peu davantage se pencher sur justement le contenu moral qu'on peut repérer dans les séries. Alors on va évidemment pas avoir le temps d'approfondir énormément les choses, mais on va donner quelques exemples pour avoir une idée un petit peu plus précise de ce qu'on peut trouver comme contenu moral dans une série.
Bien, bien. Ben là, je compte sur toi, tu le sais. Hein.
Oui, je le sais bien. Alors, la première chose, c'est évidemment, on peut repérer que dans certaines séries, il y a tout simplement un propos moral qui est assez facilement repérable, soit parce que il est tout simplement explicite dans les paroles des personnages, alors soit parce que on a une voix off généralement en début ou en fin d'épisode qui va nous donner un petit peu la morale, c'est-à-dire la manière dont il faut comprendre ces différents événements qui viennent de nous être racontés pour en tirer un message. Hein. C'était le cas, par exemple, dans Desperate Housewives ou dans Scrubs. Pour donner d'autres exemples, il me semble que c'était aussi le cas dans Grey's Anatomy, même si je me demande que si ça n'a pas changé depuis, mais j'ai arrêté de regarder depuis quelques années déjà. Donc voilà, ça c'est un exemple assez classique. Un autre exemple le plus évident, c'était South Park au minimum dans ses premières saisons où on avait à chaque fois un des personnages, soit Kyle, soit Stan, qui disait explicitement la morale qu'il fallait tirer de l'épisode à la fin.
C'est ça.
Donc là, c'était assez clair. Une autre manière aussi possible, c'est lorsque on a des débats entre différents personnages. Ça peut être le cas tout simplement entre des ennemis qui vont défendre chacun des positions morales très fortes, et donc on va avoir un débat autour de thèmes assez facilement identifiables. Mais ça peut aussi être le cas par exemple dans les séries New York District, où on a la plaidoirie de McCoy à la fin qui va vraiment nous servir de guide sur les raisons pour lesquelles tel crime peut ou ne peut pas être admis comme faisant partie des excuses valables.
Le plaidoyer, et même parfois, on en rajoute une petite dernière couche dans la petite dernière discussion entre avocats, où là, vraiment, s'ils sont plantés, s'ils ont perdu, il y a quand même encore une petite caisse de résonance qui se fait.
Oui, il y a toujours une réflexion aussi qui peut être continuée par la suite, c'est vrai. Alors ça, donc, c'est le plus évident, c'est lorsque le propos est dit par les personnages. On a aussi certains propos qui ne sont pas dit explicitement par les personnages, mais qui sont plus ou moins induits par la manière dont les choses sont présentées, lorsque, notamment, principalement, lorsque on va avoir un créateur derrière qui a véritablement quelque chose à dire, qui a une voix à porter à travers son histoire, à travers ses personnages, et donc on va pouvoir le repérer dans chacune de ses œuvres. L'exemple ici le plus évident, évidemment, ce sont les différentes séries de David Simon, qui ont chaque fois un contenu idéologique, politique assez évident également. Ça peut aussi être le cas d'autres séries sur d'autres critères, comme par exemple dans la série récente de cette année-ci, Crazy Ex-Girlfriend. On a aussi une créatrice de série, je crois que c'est Rachel Bloom qu'elle s'appelle, qui a véritablement une voix, alors une voix un petit peu fofolle, c'est vrai, mais on sent qu'elle a des choses à dire et qu'il y a un propos derrière tout ce qu'elle nous raconte, que ce n'est pas uniquement vain, une histoire pour le seul plaisir de l'histoire. Il y a aussi quelque chose de plus derrière. Bon, on peut multiplier comme ça les exemples. Dans la série Oz aussi, il y avait un propos quand même qui était tenu, mais qui était aussi assez clair, soit dans la narration faite par Augustus Hill, soit dans les débats entre, par exemple, le prêtre et la nonne, ou des choses comme ça. Il y avait plusieurs possibilités. Alors, on peut remarquer que, bien souvent, ces propos vont être plutôt des propos prônant la tolérance et l'égalité, et puis l'acceptation de soi lorsqu'il s'agit de trucs plus intérieurs. Donc ça, c'est pour le propos en tant que tel. Maintenant, dans le dispositif de la série en elle-même, il peut aussi y avoir un certain nombre de choses qui sont mises en avant sans même que le créateur ou que qui que ce soit en ait forcément conscience. La série télévisée est un média, est un support qui va particulièrement bien mettre en avant les individus, qui va particulièrement bien mettre en avant le quotidien, qui va particulièrement bien mettre en avant aussi les petits détails, les petites choses de la vie de tous les jours. Donc, à partir de là, forcément, on va avoir une grande mise en avant de tout ce qui est individu, donc la responsabilité individuelle, donc les questions aussi d'identité, aux dépens d'autres questions comme qui exigeraient une plus grande vision d'ensemble, qui sont les questions plus politiques ou idéologiques. C'est pour ça que bien souvent, on entend les créateurs de séries nous dire qu'ils ont voulu nous raconter la grande histoire à travers les petites histoires. Et c'est vrai que c'est une tendance assez lourde de vouloir toujours nous raconter de grands événements historiques, mais uniquement à travers la manière dont telle ou telle petite famille ou tel individu l'a vécu. Ça peut être des événements historiques, mais d'ailleurs ça peut être aussi des événements dans le futur où on ne voit pas forcément le gros truc arriver, mais on voit la manière dont une famille en particulier va le vivre. Par exemple, The Walking Dead, on ne voit pas la vue d'ensemble sur ce qui se passe exactement sur l'ensemble de la planète, on voit uniquement comment le vivent Rick et ceux qui vont l'entourer, quoi.
Rick et sa bande.
Rick et sa bande, exactement. La bande des joyeux Drill. Alors, tout ça mène généralement à une recherche qui est assez prononcée actuellement de réalisme, et le réalisme est considéré comme la représentation de ces différents éléments. Donc, est réaliste actuellement pour le public, pour les téléspectateurs, quelque chose qui met en scène des individus, qui met en scène des problématiques individuelles, qui met en scène le quotidien, qui met en scène vraiment des petits détails. On voit la saleté, on voit des petits trucs comme ça qui rendent les choses plus concrètes pour le téléspectateur. on peut se dire que ça, c'est la manière dont nous, on voit le réalisme aujourd'hui. Ça n'a pas forcément toujours été le cas.
Non, du tout.
En fonction de l'époque dans laquelle on vit. Ceci dit, la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que j'ai l'impression que la tendance qu'on peut observer actuellement à avoir des récits qui se préoccupent de moins en moins de cette question de réalisme, mais de plus en plus d'être dans une référence perpétuelle à d'autres récits, d'autres univers, etc., ça pourrait nous indiquer qu'il y aurait actuellement une nouvelle tendance qui pourrait se mettre en place, dans lequel finalement le réalisme serait moins important que la manière de faire des ponts, de faire des liens avec d'autres histoires, d'autres références, d'autres univers.
Bien, merci pour cette belle analyse. On va faire une petite pause si tu le veux bien. Nos esprits ont déjà bien chauffé sur le coup. Côté musique.
Alors, côté musique, on va s'écouter Colors de Amos Lee, entendu notamment dans Dr. House.
Yesterday I got lost in the circus, feeling like such a mess. And now I'm down, I'm just hanging on the corner. I can't help but reminisce, 'cause when you're
bien voilà, nous sommes de retour pour la suite de cette émission Série Folie, épisode 14, saison 3.
Oui.
Alors, dis-moi, Aurore.
Alors, maintenant, je vais essayer de donner quelques exemples et je vais commencer par les exemples qui sont les plus significatifs, c'est-à-dire ceux qu'on va retrouver le plus souvent dans les séries, ceux en tout cas que moi, j'ai retrouvé le plus souvent dans les séries. Je vais commencer par citer une sorte d'élément idéologique qu'on retrouve quasiment partout, qui est le pragmatisme. Alors le pragmatisme, c'est quoi exactement ? C'est l'idée selon laquelle les grandes idéologies, les grandes explications du monde ont fait leur temps, elles n'ont plus aucune valeur aujourd'hui, et donc il faut totalement les laisser de côté pour uniquement tenir compte des conséquences de nos actes, finalement. Si les conséquences sont bonnes, eh bien, c'est que ce qu'on fait, eh bien, c'est à peu près à ça qu'on en arrive. Donc, on est plus du tout dans quelque chose, justement, dans une morale qui permettrait d'avoir des principes forts. Au contraire, c'est vraiment au cas par cas qu'on va pouvoir évaluer... évaluer les actes des individus. Uh-huh. Ce pragmatisme se retrouve énormément dans les débats que l'on peut avoir dans les différentes séries, où on a finalement très souvent des personnages qui sont plutôt les représentants de principes moraux, qui vont être confrontés à une série de choix moraux face auxquels ils vont être plus ou moins obligés d'abandonner leurs principes. Parfois, même s'ils ne les abandonnent pas, ils finissent tout simplement par mourir. L'exemple le plus frappant de ça, c'est Game of Thrones. Dans Game of Thrones, on a véritablement cette idée-là. En tout cas, c'est la lecture que j'en fais. L'idée selon laquelle les personnages qui restent trop accrochés à leurs principes et qui ne sont pas capables de se plier plus ou moins aux événements pour continuer à survivre, ceux qui ne sont pas donc suffisamment malins mais qui seraient trop rigides dans leurs principes moraux, eh bien tous vont finir par mourir.
Voilà.
Voilà,
c'est une lecture comme une autre de Game of Thrones.
C'est aussi simple que ça. Jusqu'à présent, alors je peux évidemment voir que dans les saisons qui vont suivre, ça ne se confirmera pas, mais jusqu'à présent, j'ai l'impression que cette lecture-là se confirme plutôt. Une autre série qui, pour le moment, est très très présente sur ce sujet-là, c'est la série The Good Wife. Alors évidemment, The Good Wife, il ne meurt pas s'il ne
s'il et encore, il y en a qui disparaissent.
mais on voit bien qu'il y a toute une réflexion qui n'est pas du tout évidente, mais qui est menée sur les principes moraux et puis sur la manière dont finalement, au fil du temps, au fil de ce qu'on est obligé de faire ou pas, on peut plus ou moins les abandonner, à quelles conditions. Tout ça n'est pas encore parfaitement clair. On voit bien qu'Alisha n'est pas encore totalement... dépourvue de tout principe moraux, mais on voit qu'au fil des saisons, elle s'en est débarrassée de plus en plus, et c'est ce qui lui permet d'être la femme assez puissante qu'elle est aujourd'hui, alors qu'elle venait de l'espèce de trophy wife qui se fait humilier publiquement au tout début de la série. Donc ça, c'est aussi un exemple flagrant. Enfin, bah évidemment, je citerai South Park qui aussi est vraiment très très à cheval sur cette remise en cause absolue et continue de toutes les idées, toutes faites, tous les principes dogmatiques que l'on peut avoir pour toujours les remettre en question en mettant plutôt en avant une sorte de bon sens qui voudrait que il suffit de réfléchir un petit peu, de regarder autour de toi et tu verras quand même bien, t'arriveras quand même bien à démêler ce qui est vrai de ce qui est totalement absurde, quoi. C'est un petit peu sur ce principe-là que South Park joue toujours. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément, le pragmatisme. Un autre élément que l'on va retrouver dans beaucoup de séries, c'est... Alors, ici, j'ai noté le désenchantement enchanté. C'est lié évidemment au pragmatisme. Hein. C'est à partir du moment où on a abandonné tous nos principes, toutes les idées préconçues de ce que l'on pouvait se faire. Alors là, quand je parlais de pragmatisme, c'était au point de vue moral, mais même au point de vue de notre vie de tous les jours, de la manière dont on la mène, quand on a abandonné toute idée préconçue sur ce que peut être le couple, sur ce que peut être l'amitié, sur ce que peut être la carrière, sur ce que peut être la vie en général, eh bien, on se retrouve face à une sorte de vertige qui peut en même temps devenir une véritable chance. En tout cas, certaines séries vont nous le présenter comme ça. À la fois, c'est une sorte de gros foutoir où personne ne sait exactement où il va et qui peut être assez angoissant, mais en même temps, c'est la chance de rencontrer des gens différents, c'est une manière aussi un peu plus proche de la tragédie de vivre sa vie, c'est-à-dire tout simplement, on la prend comme elle vient, avec le bien et avec le mal, sans trop se poser de questions, parce que finalement c'est ça qui nous ferait le plus de mal. Alors les séries que moi j'ai repérées assez fortes sur ce sujet-là, c'est notamment Californication qui remet énormément en cause le couple, mais dans une sorte de joyeux foutoir. Community également, autour de tout ce qui est la carrière et ce qu'on peut faire de sa vie, mais aussi le couple finalement. Et on voit bien par exemple que dans la manière dont Britta, qui est celle qui peut avoir soi-disant des idées politiques et un engagement, en tout cas c'est comme ça qu'elle essaie d'être, mais à chaque fois la manière dont elle est remise en question et moquée montre bien qu'on est véritablement dans cette conception assez pragmatique de la vie. Dans New Girl également, on a tous ces gens qui finalement ne savent pas trop comment mener leur vie et qui la vivent un petit peu en profitant de ce qui vient, sans trop s'interroger sur la suite, parce que parfois ça peut aussi être assez tragique la suite, et donc on préfère pas trop regarder, quoi. Donc bien. Voilà, ça c'est un désenchantement enchanté.
On apprend tous les jours.
Voilà, alors... À partir de désenchantement enchanté, j'ai dit que ça permettait éventuellement de rencontrer plein de personnes qu'on n'aurait pas forcément cherché à rencontrer si on était resté dans des codes très rigides. Eh bien, justement, on retrouve aussi dans les séries énormément le sens de la communauté, mais de la communauté comme étant un groupement totalement improbable de personnalités qui n'ont absolument rien à faire ensemble. Et ça, on retrouve aussi pas mal, notamment dans Community, mais aussi dans The Office, dans Superstore également, la toute nouvelle série, c'est assez flagrant. Mais même dans des séries comme Deadwood ou Friday Night Lights, on a aussi ça, même si c'est moins sur un registre très extravagant, mais on a aussi cette idée-là que, au-delà de tout, il y a moyen de faire communauté, même lorsqu'on a une sorte de juxtaposition d'individualité totalement improbable, quoi.
Oui, en même temps, c'est quand même un peu le reflet de la vraie vie. On ne fait peut-être pas communauté, mais on est bien obligé, au travail notamment, de scoltiner des gens tout à fait différents de nous.
Oui, bien sûr, mais voilà. Quand même...
On ne fait peut-être pas bloc, hein,
Dans Community ou même dans Superstore, tu vois bien que ils sont beaucoup plus uniques que ce que tu peux l'être avec tes collègues.
Oui,
de bureau,
mais regarde The Office, hein, oui, y a quand même beaucoup de tensions aussi.
Il y a des tensions, mais en même temps, ils font plus de choses ensemble que tu n'en feras jamais avec tes collègues, je crois. Hein,
Ils sont bien obligés, sinon on doit arrêter la série, tu comprends.
Mais oui, mais...
Mais à terme, il y en a qui se détestent quand même beaucoup, et ça c'est un reflet de la vraie vie.
D'accord.
Bien, bon alors, si tu veux encore pouvoir en placer une juste après.
On continuera après, oui.
Très bien, la musique.
Alors la musique, ça va être Complicated de Avril Lavigne, entendu dans Génération Kill.
What's she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me one-on-one. But you become somebody out round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You try. You look like a fool to me. Tell me why the hell they gonna make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated. Life's like this, you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn it into honesty. Promise me I'm never gonna find you faking. No, no, no. You come over unannounced, dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else around everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. And if you could only let it be, you will see somebody else round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool, you look like a fool to me. Tell me what it had to go and make things so complicated.
Et nous voilà donc de retour pour cette dernière partie de l'émission. Rapidement, ben on va continuer le sujet du jour.
Oui, alors un autre exemple que l'on va retrouver aussi et qui est toujours un peu lié à cette idée de pragmatisme, ça va être la morale de l'action. C'est l'idée selon laquelle, ben forcément, puisque on ne peut plus être défini par des principes, on va être défini par ce que l'on fait, tout simplement. Un des créateurs de séries qui est le plus évidemment représenté par cette idée-là, c'est Joss Whedon, et donc les séries de Joss Whedon dans lesquelles la morale de l'action et ben, notamment l'existentialisme dont, me semble-t-il, j'ai cru comprendre qu'il s'inspirait beaucoup, ces éléments-là sont très présents. Donc c'est l'idée selon laquelle, finalement, il n'y a aucun moyen véritablement de se définir en tant qu'être humain. Le seul moyen de véritablement se définir, le seul moyen d'exister, c'est à travers ce que l'on fait de notre vie. Et donc, ben forcément, ça va être une manière de pousser les gens à agir. On va pouvoir constater que bien souvent, dans les séries adolescentes, ben c'est cette idée-là selon laquelle il faut surtout pas avoir peur, mais il faut prendre son courage à deux mains et il faut y aller, il faut rentrer dans la mêlée, il faut s'engager, il faut agir. Est très très présente dans le discours au minimum des séries adolescentes américaines. Hein. On le retrouve dans Buffy, mais on le retrouve également dans d'autres séries adolescentes comme Dawson ou One Tree Hill, par exemple. Ce qui est intéressant avec les séries de Joss Whedon, c'est que alors on a Buffy et Angel qui suivent plus ou moins ce principe-là, ce précepte-là, selon lequel finalement la vie est peut-être pourrie, mais au final il faut quand même se retrousser les manches et y aller. C'est même la scène de fin de Angel, hein, qui est même si on doit en mourir, il faut quand même agir, quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la série Dollhouse, qui nous présente des corps qui sont finalement vidés de toute personnalité pour devenir les objets de fantasmes d'autres personnes et donc avoir comme ça différentes personnalités en fonction de leur mission. Cette question-là semble particulièrement être présente et peut-être un petit peu remise en question, je ne sais pas, dans l'idée selon laquelle finalement, mais c'est vrai que ces personnes sont peut-être ce qu'elles font, mais au final, elle semble avoir quand même une identité derrière tout ça. Elle semble quand même être quelque chose de plus que simplement la somme de tout ce qu'on leur fait faire au cours de leur mission. En tout cas, ça, c'est une question que je me pose. Peut-être que cette série-là apporterait quelque chose à la réflexion commencée avec Buffy et Angel. Donc ça, c'est une chose, mais cette morale de l'action, on va pouvoir aussi la retrouver dans d'autres séries, cette fois-ci moins adolescentes, comme par exemple The Walking Dead ou The Americans et beaucoup d'autres, dans laquelle finalement les personnages deviennent, au fur et à mesure de leurs actions, deviennent méchants, deviennent gentils, deviennent finalement ce qu'ils font, tout simplement parce que on ne sort pas indemne des différents actes qu'ils ont à accomplir, évidemment. Donc ça, c'est un autre message moral qu'on peut retrouver aussi dans pas mal de séries. Le pessimisme que l'on peut avoir dans les séries de Joss Whedon, qui est un pessimisme assez pragmatique, qui dit simplement « Bon, c'est vrai que la vie, c'est franchement pas toujours la joie, mais au minimum, faut y aller, faut avancer les gars. » Et c'est plutôt volontariste comme pessimisme. Face à ça, il y a d'autres séries qui me semblent être un pessimisme plus misanthrope. Et une série comme The Walking Dead, pour moi, se situe plutôt dans cette optique-là, qui est presque nihiliste dans sa manière de présenter le monde et l'humanité comme n'ayant aucune chance d'être rattrapé par quoi que ce soit, quoi. Donc ça, c'est aussi une autre tendance qui peut exister. Différentes formes de manières de présenter l'humanité et la vie en général. Enfin, un dernier exemple que je donnerais, c'est une morale de l'authenticité. À partir du moment où on ne peut compter sur rien d'autre que ce que les gens montrent d'eux-mêmes, il est très important d'être authentique et d'être pleinement soi-même, d'être vrai avec soi-même. Et donc, le mal, ce qui est le pire chez un être humain, ça va être le fait de ne pas être authentique, de ne pas être quelqu'un de vrai, d'être dans l'hypocrisie, dans le faux, etc. Et cette manière de représenter le mal est très présente, notamment dans Breaking Bad et dans Better Call Saul, dans lequel le mode de vie petit bourgeois, bien propre sur lui, mais qui cache plein de choses, est particulièrement détestable, mais aussi, par exemple, dans Dr. House et dans la dernière saison de South Park, que je vous invite tous à aller voir. Et cette morale de l'authenticité, c'est aussi ça qui permet, dans énormément de séries, de valoriser les personnages excentriques, parce que évidemment, l'excentricité, ça permet de montrer que tu es authentique véritablement.
Bien. Ce sera le mot de la fin, Aurore. Merci à toi pour une nouvelle fois cette analyse très pointue des séries télévisées. Cette émission sera en podcast très bientôt disponible sur le site internet de l'émission www.seriefolie.be. Seriefolie en un mot avec SA Série. La même chose, hein, toute l'actu de votre émission préférée via les réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter. Pour la suite, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine.
Tout à fait.
On se quitte en musique.
Oui, on va s'écouter Space Oddity de David Bowie, entendu dans Supernatural.
Bel hommage pour David Bowie. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition
1.
And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Yeah.